Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Faut-il être plus sévère avec les auteurs de violences dans le sport? On se pose la question au lendemain de la blessure de Dimitri Payet lors du match OL-OM. Il a reçu une bouteille d'eau jetée par un supporter, la ministre des Sports. Il sera en direct avec nous dans quelques instants. Emmanuel Macron parle de situation explosive en Guadeloupe. Il lance un appel au calme. On sera avec un député de Guadeloupe en direct avec nous. Il a rendez-vous à 18h avec le Premier ministre. Le débat des Républicains, événement politique hier soir sur Europe 1 et CNews. Il en ressort beaucoup de propositions sur la sécurité. On va y revenir avec Alexandre Chauveau. Et puis la tendance météo avec vous, Anissa Haddadi. Deux tendances très différentes entre le nord et le sud. Hein.
Et une fois n'est pas coutume, c'est sur la moitié nord que la journée sera la plus agréable, avec une journée lumineuse, froide et venteuse. Le ciel est plus couvert cet après-midi sur la moitié sud, avec même des orages localisés au bord de la Méditerranée. Les températures, elles, sont en chute libre.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Une bouteille d'eau jetée depuis les tribunes et qui vient s'écraser sur le crâne, l'arrière du crâne de Dimitri Payet. C'était hier soir, lors du match OL-OM. Avant de retrouver la ministre des Sports, Cyril de la Morinerie, retour sur ce qui s'est passé. Ce qui frappe notamment, c'est que les dirigeants ont mis une heure et demie pour décider de ne pas reprendre la rencontre. Hein.
Oui, la décision qui tombait sous le sens était d'arrêter le match tout de suite. Au lieu de cela, les spectateurs et les joueurs ont attendu pendant que l'on négociait en coulisses l'invraisemblable s'est alors produit lorsque le speaker a pris pour la première fois la parole.
Le match va reprendre. Mais c'était un acte isolé, la personne a été interpellée. Dès qu'il se passe quelque chose, il sera arrêté définitivement.
Les joueurs lyonnais reviennent sur la pelouse, mais dans les vestiaires, Dimitri Payet est sonné. Il n'était pas en état psychologique de reprendre le match. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, pousse pour reprendre, parle d'un cas isolé. Tout le monde se renvoie la patate chaude. La Ligue publie un communiqué pour regretter la décision du préfet de reprendre le match, ce qui est faux, alerte de la préfecture. L'arbitre Rudy Buquet met fin à cet improbable imbroglio.
Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match. On se doit de protéger les acteurs du monde du football. Et nous sommes les premiers garants de leur sécurité, donc c'est la raison pour laquelle la décision finale a été prise.
Rudy Buquet, interrogé par le diffuseur, deux personnes sont toujours en garde à vue, dont l'auteur présumé de ce jet de bouteille, âgé de 32 ans. Dimitri Payet n'a pas participé à l'entraînement ce matin. D'après les informations d'Europe 1, la commission de discipline va se réunir à partir de 13h. L'un de ses membres m'a expliqué qu'il fallait taper fort. Lyon risque d'avoir match perdu et un retrait de points.
Merci beaucoup Cyril. Réunion demain avec le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports et les instances du football. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est en direct avec nous. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous comprenez qu'on mette 1h30 à décider d'arrêter un match alors que Payet est blessé après avoir reçu cette bouteille jetée par un supporter. Il y avait débat ou pas ?
Écoutez, d'abord, mes pensées vont à Dimitri Payet. J'avais eu l'occasion de le rencontrer après sa première agression. C'était passé juste à côté de sa tête et il était déjà mal en point. Je pense qu'avec ce qui s'est passé hier soir, plus les injures à son encontre au moment où il est sorti, il a rejoint le vestiaire. Je crois que trop, c'est trop. Et il faut maintenant que les instances se mettent autour de la table pour faciliter aussi la décision de l'arbitre. Vous parlez d'une décision qui a duré une heure et demie. Mmh. Effectivement, il faut laisser les coudées franches et surtout les donner les coudées franches aux arbitres pour qu'ils puissent décider d'après un texte qui est écrit noir sur blanc et où on connaisse la procédure dans le cas où ça arrive. Alors évidemment,
c'est ce que vous allez décider demain. C'est ce que vous allez décider demain lors de la réunion.
Alors, je vais surtout le dire et m'en expliquer avec la Fédération, la Ligue, à qui nous donnons délégation de services publics pour organiser les compétitions en toute sécurité. Et encore une fois, cette délégation, elle ne s'en tient pas juste à préserver un modèle de compétition, un modèle économique. C'est surtout préserver, comme l'a dit l'arbitre dans l'intervention de tout à l'heure, préserver la santé, l'intégrité des joueurs, des acteurs du sport et aussi des personnes qui sont présentes dans le stade, mais également de celles qui regardent le match Et donc, c'est ça qu'on doit avoir en tête quand on discute de ce sujet. Et il faut le considérer, le regarder en face.
Madame la ministre, je vais vous dire le fond de la pensée de nombreux Français, de nombreux amoureux du football. C'est que tout le monde s'indigne à chaque fois. Tout le monde est prompt à faire un tweet, à dire que c'est inadmissible et que ça recommence. Vous avez peut-être vu cette dépêche de l'agence France Presse tombée hier soir. Le 8 août, projectile à Montpellier. Le 22 août, affrontement en Bretagne. Le 22 août, pelouse envahie et rixe lors de Nice-OM. Le 18 août, échauffourée de Lens, lors du match Lens-Lille. Pour ce qui est du match du 22 août, là, Nice-OM, retraite 2 points pour Nice et le huis clos total pour 3 matchs. Est-ce que c'est de nature à vraiment calmer les choses? Est-ce qu'il ne faut pas être plus sévère?
Écoutez, moi, j'ai toujours maintenu et indiqué que j'étais favorable à des sanctions individuelles. Aujourd'hui, ça ne se faisait pas avant. Mmh. Donc aujourd'hui, les fauteurs de troubles sont recherchés dans les tribunes, hein, comme ça a été le cas hier. Donc j'ai mobilisé de mon côté les clubs pour que tout l'attirail aujourd'hui de contrôle dans les stades puisse être utilisé et que les forces de police qui sont présentes puissent interpeller les fauteurs de troubles et les produisent derrière à la police, à la justice. Nous allons là mobiliser toute la justice pour qu'ils agissent de manière beaucoup plus forte pour les individus, qu'on aille plus loin dans les sanctions. J'ai proposé à la Ligue qu'on puisse mettre des référents supporters dans nos préfectures pour qu'ils accompagnent les clubs lorsqu'ils viennent produire leurs éléments sur la sécurité du match dans les préfectures, ce qu'ils sont obligés de faire suffisamment en amont. De mon côté, aujourd'hui, je suis tout à fait en accompagnement des instances sportives, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est aux instances sportives de s'organiser, que la Ligue reçoive tous les clubs, tous les présidents de clubs. Déjà, d'une part, qu'ils leur disent « parlons tous d'une seule et même voix
oui, bien
lorsque
sûr.
Mais, de tels agissements ont si lieu je... » et qu'on n'entende pas un président de club, un autre ou un autre, dire « ah bah oui, mais bon, finalement, c'est pas si grave. »
Mais si je vous écoute, Madame la Ministre, excusez-moi de vous couper, si je vous écoute, vous n'êtes pas pour le feu nucléaire au premier incident, huis clos total jusqu'à la fin de la saison, pour que ça calme les choses. Parce que j'étais en train de faire la liste des incidents, je me suis arrêté, mais j'aurais pu continuer. Hein. Il y en a quasiment à chaque journée.
Non, mais nous, les déplacements des supporters qu'on peut nous énoncer viennent en support d'une réflexion intelligente qui sera mise en place aujourd'hui à la Ligue. On ne va pas juste interdire le déplacement des supporters pour l'interdire. Ils se sont suffisamment plaints, je pense, pendant la période de crise, du fait qu'on n'avait pas de revenus parce qu'il n'y avait pas de public au stade. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On les a accompagnés, y compris financièrement. Y compris avec le pass sanitaire aujourd'hui et tout ce qui peut être mis en place, on a plaidé pour que ce pass sanitaire puisse se mettre en œuvre et qu'on assiste à des stades, à des matchs devant des stades pleins. Ça a été le cas, par exemple, au Stade de France pour un magnifique match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande qui s'est très bien passé.
Vous me retirez les mots de la bouche. 80 000 spectateurs au Stade de France samedi soir,
pourquoi,
pas un incident.
Pourquoi là on peut y arriver? Pourquoi dans des événements avec des équipes de France on peut y arriver? Et pourquoi dans des jeux avec des clubs et des associations de supporters de chaque club on ne peut pas y arriver?
Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
On ne peut pas utiliser la santé des Français pour mener des combats politiques. C'est ce qu'a dit ce matin Emmanuel Macron depuis Amiens en lançant un appel au calme. On l'écoute et on est en direct ensuite avec un député de Guadeloupe.
Notre priorité, c'est de continuer à convaincre que la vaccination est la meilleure protection et ne rien céder aux mensonges, au détournement d'informations et à la manipulation par certaines et certains de cette situation. Ensuite, il y a une situation qui est très explosive, qui est liée à un contexte très local, à des tensions qu'on connaît et qui sont historiques, et aussi à certains intérêts qui cherchent un peu à utiliser ce contexte et l'anxiété. Expliquer, convaincre, parce qu'on ne joue pas avec la santé. Et on ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques. Sur ces combats politiques, ensuite, il faut que l'ordre public soit maintenu. Je sais combien... Là aussi, la Guadeloupe a droit à la quiétude. Et donc, il faut que dans le calme, le respect de chacun, on retrouve la quiétude et l'ordre public.
On est en direct avec Max Mathiazin, député MoDem de Guadeloupe. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Bonjour. Certains utilisent la santé pour mener des combats politiques, dit le président de la République. Est-ce que c'est votre sentiment au sujet de ce qui se passe actuellement en Guadeloupe ?
honnêteté, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit cela tout à fait. Parce que lorsque vous avez un territoire de la République, en Guadeloupe et également en Martinique ou en Guyane, que vous avez seulement 40% de primo-vaccinés, si les Guadeloupéens sont rétifs à la vaccination, c'est qu'il y a des causes profondes.
Comme le chlordécone, c'est-à-dire le chlordécone qui était utilisé sur...
Il y a tout le contexte historique que vous connaissez et que je ne vais pas vous rappeler. Donc, les Guadeloupéens sont rétifs à la vaccination, ils sont méfiants. Le président de la République a dit qu'il faut continuer à essayer de convaincre par la pédagogie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette grève a eu lieu parce que la pédagogie n'a pas prévalu et que l'on a commencé à suspendre le personnel médical, de médical, on a commencé à suspendre les ponts des sapeurs-pompiers. Et donc, c'est ce qui a causé, si vous voulez, le départ de cette grève.
Comme ce qui se passe en métropole.
Oui.
Exactement comme ce qui se passe en métropole.
Oui, mais seulement ce territoire est un territoire d'environ 400 000 habitants où tout le monde se connaît. Il y a eu des protestations puisque les gens n'ont pas accepté de se faire vacciner en grand nombre. Puisqu'en métropole, je vous rappelle que le taux de vaccination est un peu plus de 75%. Et en Guadeloupe, le taux de vaccination est seulement de 40%. Par conséquent, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour cela que cette grève a eu lieu.
En un mot, monsieur le député, qu'est-ce que vous allez dire au Premier ministre Jean Castex, avec qui vous avez rendez-vous à 18h ?
Eh bien, écoutez, nous rencontrons députés et sénateurs pour nous mettre d'accord, pour nous concerter. Mais moi, ce que je voudrais dire au Premier ministre, c'est que la réponse qui a consisté à envoyer des forces de l'ordre, y compris le RAID et le GIGN, c'est une première réponse, c'est une partie de la réponse, parce qu'évidemment, il faut rétablir l'ordre républicain dans ces territoires, où les gens sont menacés dans leurs biens et leurs personnes, mais également porter d'autres solutions pérennes qui soient plus suspendre pour un temps, pour vraiment retrouver, comme le dit le président de la République, la voie du dialogue et de la pédagogie, et puis faire en sorte que le dialogue puisse se nouer entre les organisations syndicales et les autorités de l'État, et se pencher sur le cas de la jeunesse guadeloupéenne. Vous les balayez
tous les sujets, la vaccination, mais pas uniquement, le social également. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, Max Mathiasin, député MoDem de Guadeloupe. En métropole, l'épidémie repart, mais pas le nombre d'hospitalisations. Céline Géraud avec nous. Bonjour, Céline.
Bonjour, Romain.
Ce qui est très net, c'est que le taux d'incidence augmente sensiblement et régulièrement.
Oui, selon les dernières données, le taux d'incidence moyen sur l'ensemble du territoire est de 144 cas pour 100 000 habitants. Pour mémoire, il était de 105 le 14 novembre. Tous les départements sont donc repassés au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50, et cela explose même dans certaines régions. Un quart des départements affiche en effet un taux d'incidence supérieur à 200, en tête de pont, l'Ardèche, la Haute-Corse, la Corse du Sud, les Landes, les Bouches-du-Rhône et le Haut-Rhin. Le nombre de cas a quasiment doublé en 7 jours, ça on le sait, un peu plus de 18 000 nouveaux cas. Recensés ce week-end, nous sommes moins impactés, Romain, que nos voisins autrichiens ou allemands, mais la courbe d'évolution du virus est exponentielle. Ce matin, Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris, a précisé que le nombre de patients en soins critiques reste stable. Les conséquences de cette cinquième vague devraient se produire, selon lui, plutôt fin décembre ou en janvier. Cette nouvelle flambée reste pour l'heure contenue dans les hôpitaux, mais cela reste fragile. Mercredi matin, un conseil de défense sanitaire est prévu au gouvernement.
Merci beaucoup, Céline. Et puis cette information est tombée il y a une demi-heure. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de remise en liberté de Cédric Jubilard, écroué depuis le 18 juin et soupçonné d'avoir fait disparaître son épouse Delphine. C'est ce qu'a annoncé un des avocats de Cédric Jubilard. 12h44, restez bien avec nous. Dans un instant, on va revenir sur le débat des Républicains. C'était hier soir sur Europe 1 et sur CNews. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? On voit ça avec Alexandre Chauveau. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h47, 2h50 de débat sur Europe 1 et CNews hier soir. Les 5 candidats à l'investiture Les Républicains pour la présidentielle ont échangé et il en ressort plusieurs propositions sur la sécurité. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain.
Qu'est-ce qu'on peut en retenir ?
Plusieurs choses. D'abord qu'Éric Ciotti est favorable au déploiement de l'armée dans les quartiers en soutien des forces de l'ordre. Aucun moyen ne doit être mis de côté. Et s'il faut des symboles pour garder les halls d'immeubles avec des militaires, eh bien faisons-le.
Alors Xavier Bertrand s'y oppose, lui fait confiance aux policiers à qui il veut simplement redonner du pouvoir.
Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui ? Des instructions claires et une réponse pénale qui soit à la hauteur. Ça s'appelle la riposte républicaine.
Valérie Pécresse s'est montrée particulièrement pugnace sur la sécurité. La présidente de la région Île-de-France propose, si elle est élue, d'instaurer la territorialisation des peines.
Moi, je crois que la peur doit changer de camp. Il faut faire des exemples. Il faut que, dans ces quartiers, les sanctions soient aggravées.
Vous l'avez compris, chacun y est allé de sa mesure. Philippe Juvin souhaite que les délinquants étrangers effectuent leur peine dans leur pays d'origine. Et Michel Barnier a quant à lui surpris en proposant le rétablissement du service militaire.
Très franchement, je pense que ce ressort, ce moteur de l'intégration républicaine nous manque aujourd'hui.
La campagne s'axe donc très clairement à droite pour les candidats, et ce, à moins de 10 jours du premier tour.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau. 12h48, je voulais qu'on revienne dans Europe Midi sur ce chiffre. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 10% des violences conjugales qui ont concerné en 2020 159 400 personnes tous sexes confondus. On est avec Ernestine René. Bonjour. Vous êtes
Bonjour.
Responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes. Comment cette hausse s'explique-t-elle, selon vous ?
De deux façons. La première, c'est évidemment, on a tous eu peur et nous avons la confirmation que le confinement rendait la maison le lieu de tous les dangers. Et ça se confirme. Et puis la deuxième chose, c'est que pendant cette période, il y a eu une campagne de communication très importante pour dire aux femmes, aux voisins, aux amis, aux collègues de travail, aider à la révélation des violences. Signalez-vous. Mmh. Et ça a marché. Et puis, troisième élément, je dirais, les forces de sécurité ont eu des instructions précises pour réagir vite et bien. Et c'est comme ça qu'on a les 10% de plus pendant la période de confinement de révélation. Les femmes ont été encouragées à révéler, ce qui est quand même très important. Et apparemment, les forces de sécurité ont aussi suivi, ce qui est aussi très encourageant. Ce qui nous manque dans cette enquête,
dites-nous,
c'est de savoir qu'est-ce que deviennent ces signalements. Est-ce que c'est des plaintes ? Est-ce que ce sont des mains courantes ? Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe ? Mais cette augmentation de 10% est importante et montre qu'on peut s'améliorer dans la prise de plainte et dans la révélation des violences.
La Seine-Saint-Denis et la Guyane sont les deux départements les plus touchés. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Je pense qu'il y a les deux éléments que je viens de dire. D'un côté, davantage de violences sans doute dans les maisons, mais aussi des forces de sécurité. Vous savez, il y a un grand partenariat en Seine-Saint-Denis et les forces de sécurité sont davantage formées à prendre les plaintes et à les prendre au sérieux. Et nous avons donc aussi des réactions avec les associations de terrain, etc., qui favorisent la révélation des violences par les femmes. Je pense que les deux vont ensemble, mais il y a réellement un tissu social et une prise de conscience des forces de sécurité et des associations sur la dangerosité des hommes violents et donc sur la nécessité de signaler et de prendre les signalements. Oui. Ce n'est pas seulement que les femmes signalent, mais c'est pris en compte.
C'est pris en compte. En un mot, Ernestine René, s'il vous plaît, des hommes sont également victimes ? Dans quel cadre ? Il y a 20 000 cas en 2020.
Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont victimes. On a deux possibilités. Des hommes sont davantage peuvent être victimes, bien sûr. Les femmes peuvent être... Et puis on peut aussi être ce qu'on voit avec les enquêtes, notamment sur les femmes tuées. Là, on n'a pas les éléments, mais sur les femmes tuées, on l'a. Dans la moitié des cas, quand les hommes sont victimes, il s'agit de femmes qui sont victimes et qui réagissent.
Oui.
Donc on est aussi avec cette histoire-là. C'est-à-dire, les hommes peuvent être victimes, mais les femmes peuvent aussi être victimes. Et donc... Réagir, c'est-à-dire se défendre.
Merci beaucoup Ernestine René, merci d'avoir été en direct avec nous. Il est 12h51, on va parler augmentation de salaire. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Midi,
Romain Desarbres.
12h54, l'inflation repart, l'économie repart, certains secteurs manquent de main-d'œuvre, les planètes semblent alignées pour qu'il y ait des augmentations de salaire. Carole Ferry avec nous, bonjour Carole.
Bonjour.
Les négociations commencent, à quoi faut-il s'attendre ?
Écoutez, bonne nouvelle Romain, oui, il devrait y avoir des augmentations, mais pas partout. La ligne générale suit celle des banques, qui sont les premières à avoir ouvert ce bal des négociations. Et sur les premiers accords signés, le résultat donne 1% de hausse collective chez HSBC, 0,8% pour la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne, 0,6% chez BNP Paribas. Si vous ajoutez à ça les augmentations individuelles, on est un peu au-dessus de 2%. C'est mieux que d'habitude et ça devrait donc être la tendance pour 2022. Alors on devrait être au-dessus dans les secteurs tendus. Les remontées mécaniques, par exemple, ont accordé plus de 3% de hausse pour attirer les saisonniers cet hiver. C'est un peu plus compliqué dans la restauration. La première réunion s'est soldée par un échec. Tout le monde doit se revoir le 16 décembre. Grand écart également dans les transports routiers. Les syndicats demandent au moins 10% de hausse. Le patronat propose 2 à 3 fois moins. Là aussi, il y a de nouvelles réunions prévues. Puis il y a un secteur où ça avance vraiment au ralenti, c'est la grande distribution. Vous savez, on a beaucoup parlé de ces travailleurs de seconde ligne. La toute première réunion n'a pas donné grand-chose. Les organisations patronales préfèrent attendre le mois de janvier pour négocier. D'ores et déjà, elles préviennent que le secteur a le droit au 13e mois, souvent à de l'intéressement ou de la participation. C'est une manière de préparer les esprits à une table des négociations plutôt frugale.
On va suivre ça. Merci beaucoup, Carole. Il est 12h56. La météo, avec vous, Anissa Haddadi. Le froid arrive en particulier au nord de la Loire. Hein.
Oui, le temps change. Hein. Aujourd'hui, vous l'avez certainement senti ce matin, la bise s'est levée et la bise, elle vient refroidir l'atmosphère sur toute la moitié nord du pays. Alors même si nous allons avoir pas mal de froid aujourd'hui avec la bise, le vent chasse les nuages et du coup, cet après-midi, de la Normandie jusqu'au Grand Est, le ciel est quand même assez bien dégagé. On a une journée lumineuse avec des rafales de bise jusqu'à 40 km/h dans les terres, 70 km/h sur les côtes de la Manche. Au sud de la Loire, alors là, on a quand même un ciel qui reste chargé toute la journée. C'est très gris, sauf au bord de la Méditerranée, entre le Languedoc et la Côte d'Azur. Le soleil brille, mais le Mistral souffle là aussi. Partout ailleurs, en plus des nuages, hein, l'humidité est bien présente. En Nouvelle-Aquitaine, sur la Côte d'Azur et en Corse, avec des orages localisés. Les températures, elles ont bien baissé. 4 degrés à Saint-Étienne cet après-midi, 5 à Clermont-Ferrand, 7 à Nancy et Lyon, 8 degrés pour Paris, 10 à Bordeaux et Vannes, 13 à Nîmes et 18 degrés la maximale pour Bastia.
Merci Anissa. 12h57 dans un instant. C'est La France Bouge avec Carole Ferry et Emmanuel Duteil. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi sur Europe 1.